Chapitre 30. Deux SS sont venus chercher Fred Hogarth dans son baraquement. L'homme est allongé sur sa couche et essaie de se protéger du froid polonais en se serrant dans une petite couverture qui lui couvre à peine la moitié du corps. Il est d'une maigreur effrayante. Le froid et la faim l'usent chaque jour un peu plus. Lui qui était une force de la nature n'est plus que l'ombre de lui-même. Au début de la guerre, il s'était engagé pour aller combattre les Japonais dans le Pacifique. Quand les États-Unis sont entrés en guerre contre les forces de l'Axe, il est revenu. Les services secrets américains avaient besoin d'hommes comme lui. Il parle parfaitement le français, l'allemand et le russe. Ayant fait de nombreux séjours en Europe avant la guerre, il connaît tous les pays de l'Europe de l'Ouest et s'est fait des relations un peu partout. Plusieurs fois, il a été parachuté, à partir de l'Angleterre, sur la France et la Hollande. Il a pu prendre contact avec des réseaux de résistance, accomplir des missions d'espionnage sur ces territoires, ainsi qu'en Allemagne. Malheureusement, un jour, il a été trahi par un de ses correspondants et la Gestapo l'a arrêté. Il a été déporté à Treblinka. Il a tout contre lui. Il est américain, juif et espion. Après un voyage effroyable en wagon colombé, il est arrivé au camp. Là, il a pu constater que plus qu'un camp de concentration, c'était un camp d'extermination. Les nazis auraient bien voulu utiliser ses compétences linguistiques pour servir d'interprète, mais Fred a toujours refusé de collaborer. Il connaît le sort qui l'attend. Au début, il a envisagé de s'échapper, mais le camp est bien gardé. Il voit les camarades avec lesquels il a bâti des plans d'évasion disparaître chaque jour dans les chambres à gaz. Pourquoi eux? Pourquoi pas lui? Une macabre loterie dont il ne comprend pas le mécanisme. Chaque jour, sa santé se dégrade, il est rongé par la vermine. L'odeur pestilentielle est insupportable. La nourriture se résume en une soupe clairette qui ne donne aucune force. Sa tenue de prisonnier et une mince couverture n'empêchent pas le froid de le pénétrer, accentuant sa déchéance. La maladie s'attaque à son corps affaibli sous la forme d'une pneumonie. Il n'arrête pas de tousser et de cracher. Parfois, il entend dans le ciel des bruits d'avions, les alliés sans doute. Il reprend un peu espoir, mais les escadrilles vont bombarder les industries et les installations militaires voisines, semblant ignorer le camp. Depuis plusieurs jours, il a une fièvre intense et ne cesse de trembler. Il est presque content quand il sombre dans une torpeur, effaçant momentanément ses souffrances. Au point où il en est, il aimerait que la mort vienne au plus vite, quelle que soit sa forme. Karl Stroopmann a convoqué le médecin du camp et lui a demandé de remettre l'avocat sur pied. Deux SS conduisent Fred Hogarth dans le cabinet médical. Le médecin n'a pas osé demander la raison de ce traitement particulier pour un juif. Il sait que le chef de camp n'aime pas donner d'explication. Malheur à ceux qui le contrarient. Le médecin ne soigne que les SS. Sa passion, en dehors de cela, est de réaliser des expériences médicales sur des cobayes humains qu'il choisit méticuleusement dans les convois qui arrivent. Il choisit également des jeunes filles juives pour assouvir ses pratiques sexuelles. Les ordres sont les ordres. Karl Stroopmann veut un détenu en meilleur état, il en sera fait ainsi. L'avocat est couché dans un lit propre. Joseph Zanfel l'examine. Il était temps de le soigner. Il lui administre des médicaments contre la fièvre. La pneumonie est très forte. Il utilise des sulfamides, d'habitude réservé aux soldats. Il plante une perfusion dans le bras, permettant de nourrir ce corps diminué par la malnutrition. Peu à peu, l'avocat reprend des forces. La fièvre baisse. Les microbes sont tués par les sulfamides. Fred, qui a repris connaissance, ne comprend pas pourquoi on lui accorde brusquement tant d'égards. Il a vu tellement de ses compagnons mourir sans soin, envoyés à la chambre à gaz. Il ne comprend pas cette nouvelle prévenance, mais il est tombé dans une telle déchéance qu'il profite des soins sans essayer de comprendre. Boire, manger, avoir chaud, toutes ces choses élémentaires sont revenues. Il verra après. Au bout d'une semaine, il vit l'après. Un matin, les SS vinrent le chercher. Sans ménagement, il fut amené dans un autre bâtiment où Karl Stockmann l'attendait. À côté de lui, Fred reconnut un auxiliaire ukrainien, Luka. Il était connu dans le camp en raison de sa férocité et de sa servilité aux nazis. Il frappait les prisonniers à tout moment, sans motif valable. Luka fit asseoir l'avocat sur une chaise placée au milieu de la pièce. Karl Stockmann s'approcha de lui en souriant. « Alors, monsieur l'avocat, on s'est refait une petite santé, je vois. Vous allez pouvoir me remercier. Vous remercier de quoi ? De vous avoir tiré des chambres à gaz. Ce n'est pas une chance, cela ? Et pourquoi ? Pour que vous me donniez certaines informations qui m'intéressent beaucoup. Des informations ? Allez, ne faites pas l'innocent. Sur l'argent provenant de trafic et que l'on vous a chargé de mettre en lieu sûr. Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Pour un avocat, tu n'es pas futé. Ou alors tu me prends pour un imbécile. Je sais tout. Figure-toi que tu as dit des choses fort intéressantes pendant que tu délirais. Aussi, je vais te faire une proposition. Un marché parfaitement honnête. Tu me dis où est caché le magot, et je fermerai les yeux sur ce que nous appellerons ton évasion. Quel magot ? Je n'ai rien à vous révéler. Tu persistes à te foutre de ma gueule ? Si tu continues ainsi, je vais immédiatement donner l'ordre de t'amener à la chambre à gaz. C'est ce que tu souhaites ? J'ai effectivement travaillé avec un gangster américain, mais il ne m'a pas chargé de cacher de l'argent. Menteur. Luka, explique à ce sale juif qu'il a tout intérêt à parler. Je vais faire un tour. Je suis très sensible, je n'aime pas entendre les cris. Le chef du camp alluma une cigarette et sortit tranquillement. L'Ukrainien se mit à taper avec une matraque sur Fred Gart, qui essayait de se protéger de ses bras. Malgré sa souffrance, il restait muet. Au bout d'une dizaine de coups, il s'effondra, évanoui. L'auxiliaire le souleva par les épaules et alla lui passer la tête sous une douche. L'avocat ensanglanté reprit connaissance. Karl Stockmann entra. « Alors, Youpin, tes souvenirs sont revenus ?»« Je ne sais rien. » Le nazi appela deux SS et leur donna l'ordre d'amener Fred à l'infirmerie. L'avocat ensanglanté fut traîné dans le bureau du docteur Zenfeld. « J'ai besoin de tes services, Joseph. »« Encore, je te l'avais bien retapé. Et voilà comment vous me l'avez arrangé. »« On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. »« J'avais besoin d'informations et ce chien ne veut pas parler. »« Qu'est-ce que j'y peux, moi ?»« Tu es docteur, je crois. »« Il existe des sérums de vérité qui permettent de faire parler les personnes muettes. »« Je veux que tu en administres à mon homme. » Fred Hogart fut allongé sur une table et sanglé. Le médecin alla chercher dans une armoire à pharmacie une ampoule dont il cassa la pointe et en aspira le contenu à l'aide d'une seringue. Puis d'un geste rapide, piqua l'aiguille dans le bras de l'avocat. Il faut attendre un quart d'heure avant que le produit fasse son effet. Fred Hogart s'assoupit doucement. Quand il fut entièrement calmé, Zenfeld souleva une paupière. « C'est bon, tu peux l'interroger. » Karl Stockmann mit une chaise à côté de la table et parla à l'oreille de l'homme allongé. « Alors, regarde, où est l'argent des gangsters ?»« Je ne sais rien. »« Mais si, tu sais, parle. »« En France. »« En France ou en France? Je ne sais pas. Si tu le sais, parle. À Paris. C'est mieux, Paris, mais Paris, c'est très grand. À quel endroit à Paris? Hogarth prononça quelques paroles inaudibles. Que dit-il? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il a? Le docteur Zendel. Il a que ton Ukrainien l'a tellement tabassé qu'il est en train de nous faire une syncope. Ah oh, non, merde. Où à Paris? Où à Paris?
Dans la chaussure.
L'avocat devint d'une extrême pâleur et son corps sembla s'affaisser. Le médecin enfila son stéthoscope et lui appliqua sur la poitrine. Trop tard, il ne parlera plus. Karl Strootman, furieux, retourna à son bureau. Assis dans son fauteuil, il méditait les dernières paroles du juif. Il était si près du but et il avait fallu que ce crétin de Lucas l'amoche à ce point. Il lui avait demandé de le faire parler, pas de le tuer. Des milliards de marques qui s'envolaient. Évidemment, il lui restait son trésor de guerre. Le chef de camp récupérait tous les bijoux sur les juifs arrivant à Treblinka. Il en restait fort peu, les SS des convois s'étant déjà servis. Aussi, pour arrondir son pécule, il avait demandé à ses hommes d'arracher les couronnes en or des cadavres avant de les incinérer. Des milliards de marques perdues à cause de Lucas. Il allait le lui faire payer. L'avocat avait parlé de Paris, mais cette indication était trop vague pour être exploitée. Avant de mourir, il avait parlé de chaussures. Pourquoi des chaussures? Une idée lui traversa l'esprit. Il se précipita à l'infirmerie. Où est le cadavre d'Hogarth?